France Inter. Le 7-9.
7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le PDG d'Altice France.
Bonjour Alain Veil.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes PDG d'Altice, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes surtout le fondateur de BFM TV, que vous avez créé il y a 18 ans, avant de vendre votre groupe à Patrick Drahi, et de devenir de fait PDG d'Altice et patron d'SFR, on va en parler. Quand on vous appelle le mini Drahi, ça vous flatte ?
Écoutez, je ne savais pas qu'on m'appelait comme ça. Non, je suis Alain Veil, je suis très content de travailler avec Patrick Drahi, qui est un entrepreneur très impressionnant. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble, depuis quelques semaines au quotidien, parce qu'ensemble on travaille beaucoup au déploiement et au développement et aux investissements autour d'SFR, et c'est très stimulant et c'est un vrai plaisir.
Alors, SFR, vous sortez d'une année cauchemardesque. Vous avez perdu des dizaines de milliers d'abonnés, le chiffre d'affaires a baissé de 1,6% l'année dernière. Pourquoi ? Est-ce que parce que c'est au fond vous étiez plus occupé à gonfler les marges et à augmenter les dividendes, plutôt qu'à vous occuper, qu'à penser aux clients et aux services clients surtout?
D'abord, moins 1,6% de chiffre d'affaires, c'est pas cauchemardesque. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a repris SFR il y a 3 ans. Un engagement avait été pris de ne pas toucher aux effectifs de l'entreprise pendant 3 ans, donc de ne pas réorganiser l'entreprise pendant 3 ans. Or, après l'arrivée du 4e opérateur, tous les autres entreprises de téléphones mobiles ont dû, et de fixe d'ailleurs, ont dû se réorganiser. Bouygues l'a fait aussi, Orange aussi. Nous, on a été les derniers.
Et donc, quand vous
restructurez votre entreprise et que vous le faites avec retard parce que vous avez eu cette contrainte, eh bien, c'est compliqué. Ça déstabilise l'entreprise. Donc, on a eu 3 années de déstabilisation. Et puis, cette page est tournée.
Est-ce que le client en a pâti?
Bien sûr.
Je vous parle du client, par exemple, Dominique Seux, qui est là,
Bien sûr que nos clients en ont pâti, on le regrette, mais l'entreprise, c'est vrai, a été déstabilisée. Cela dit, pendant cette période, elle n'a pas arrêté d'investir. On fait des investissements considérables chaque année. On avait du retard quand on est arrivé chez SFR dans la couverture 4G. Aujourd'hui, on a 95% de la population française qui est couverte. À la fin de l'année, on sera à 99%. On a investi 6 milliards ces 3 dernières années, donc ça, on n'a pas arrêté. Aujourd'hui, on est dans la reconquête et la priorité, c'est clair, c'est le client. Et les choses, d'ailleurs, se passent assez bien. Le retournement est assez rapide, ça fait plaisir, mais c'est parce que moi, je peux m'appuyer sur des actionnaires aussi qui investissent dans l'entreprise et surtout qui ont un très grand savoir-faire, une très grande expérience dans les télécoms, et ça nous permet d'aller très vite.
Pour la reconquête, vous avez annoncé votre plan hier. Pour inverser cette tendance, vous allez séparer les contenus des forfaits Internet. En clair, jusque-là, la stratégie du groupe, c'était de vendre un forfait global aux clients SFR. Vous aviez le téléphone, l'Internet et en plus un accès gratuit au kiosque SFR, c'est-à-dire à 80 titres de presse, des offres cinéma, des offres football. Ça, c'était la fameuse stratégie de convergence défendue par Patrick Drahi. Vous vous êtes trompé ? Vous vous êtes trompé de stratégie ?
Non, pas du tout. On est un groupe qui est assez impulsif. Patrick Drahi va très très vite. Il prend des décisions rapides.
C'est un euphémisme.
Qui sont fondamentales. Parfois, après, ça demande un peu de remettre les choses dans l'ordre. On apprend en avançant. Mais la décision était bonne. C'est comme ça qu'on s'est développé à l'international d'une façon foudroyante, avec un grand succès. Là où ça a été un peu plus compliqué, c'est en France pour les raisons qu'on évoquait. Aujourd'hui, les choses sont claires. On regagne des clients. D'ailleurs, on le dira dans quelques semaines quand on pourra communiquer sur les chiffres du premier trimestre. Donc, on a plutôt revu l'organisation pour être plus efficace. Donc, d'un côté, on a SFR qui est une entreprise de télécom, et de l'autre côté, parce qu'on croit à la convergence, on investit beaucoup dans les contenus. C'est pour ça que Next Radio TV a rejoint le groupe SFR, et c'est pour ça qu'on crée une vraie division de Pay TV avec le lancement d'une chaîne sport qui va s'appeler RMC Sport, qui a vocation à être distribuée par tous les opérateurs.
Je vais vous parler d'RMC Sport, mais concrètement, ça veut dire pour les nouveaux abonnés de SFR, jusque-là, ils avaient accès gratuit au kiosque, c'est fini, ils vont devoir payer.
Oui, mais vous savez, il y a quelques semaines, on nous reprochait d'offrir la presse gratuitement à tous nos abonnés
et de
dévaloriser. La fiscalité aussi le permettait. Aujourd'hui, la fiscalité a changé. Et puis, on apprend en avançant. Et on se rend compte que finalement, plutôt que de donner ou d'intégrer tous les contenus dans les forfaits, nos abonnés préfèrent avoir le choix. Ils préfèrent avoir le choix de prendre le sport ou de pas prendre le sport, de prendre la presse ou de pas prendre la presse, quitte à avoir des forfaits qui peuvent être un peu moins chers s'ils prennent pas d'options. C'est le choix qu'on a fait, c'est le choix de la simplicité.
Alors, une des annonces d'hier, effectivement, c'est le nouveau nom de SFR Sport qui s'appelle désormais RMC Sport. Pourquoi est-ce que vous avez changé le nom ? Est-ce que ça a à voir avec la Ligue des Champions que vous avez acheté à plus d'€1 milliard sur 3 ans ? Vous avez acheté les droits de la Ligue des Champions. Est-ce que vous avez changé le nom parce qu'au fond, Orange, par exemple, vous disait, nous, on va pas pas diffusé s'il y a écrit le sigle SFR. Vous changez de nom, RMC Sport, on peut diffuser. Est-ce que c'est pour ça ?
C'est un des arguments. C'est sûr que ça facilite les relations avec les autres opérateurs de ne pas porter le nom d'un opérateur concurrent. D'autre part, dans le groupe, on a la chance d'avoir une marque qui est particulièrement légitime dans le sport, c'est RMC, puisque RMC est la première radio sur le sport en France. On a une agence de presse qui s'appelle RMC Sport avec 170 journalistes sportifs. On a des shows de sport à la radio tous les jours, donc on a un vrai savoir-faire. Donc on va lancer...
C'est bien de faire la pub sur France Inter d'RMC.
Non, ça c'est fait.
Je
suis ravi d'être là aujourd'hui, d'être sur la première radio de France. Il n'y a aucun souci.
RTL ne va pas être content, on est juste première matinale.
Bon, d'accord, mais je suis toujours un peu en avance par rapport à la réalité.
On va vraiment pas être content.
On verra.
Vous voulez accélérer la transformation numérique de l'Express et de Libération, puisque vous êtes aussi patron de ces titres de presse. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus de version papier de Libération ou de l'Express ?
Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la distribution papier baisse. Donc si on se croise les bras en disant « Ah, ça baisse », c'est très dangereux pour la presse, pour l'information. Vous voyez les difficultés de Presstalis, qui est le distributeur de la presse papier en France. Donc nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, d'investir dans le digital, de jouer les abonnés digitaux, de recruter les abonnés digitaux. Et puis, on continue le papier et on continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de clients. Mais tant qu'il y a des clients, on continuera le papier. Ce n'est pas un sujet pour nous.
Alain Veil, pendant une semaine, Canal a coupé TF1 à ses abonnés. On a beaucoup parlé, mais très peu ont compris ce qui se passait vraiment dans cette guerre entre les chaînes de télé et les opérateurs. Si, en 30 secondes, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Parce que c'est capital, mais c'est difficile à comprendre.
Oh, c'est un débat, c'est une négociation commerciale. C'est un changement de modèle qui est en train d'opérer. Aujourd'hui, les chaînes de télévision proposent aux opérateurs de télécom beaucoup de contenu délinéarisé, c'est-à-dire en replay ou au contraire en avant-première. Quoi. Il y a beaucoup de choses à proposer. Les téléspectateurs regardent de plus en plus la télévision en délinéarisé. Ces programmes délinéarisés demandent des moyens supplémentaires. Il n'est pas anormal que les éditeurs demandent une rémunération pour ces nouveaux services.
Est-ce que vous avez demandé par exemple à Free de payer pour diffuser BFM TV ?
Aujourd'hui, non. On leur a écrit il y a quelques mois pour dénoncer le contrat de distribution, comme on le fait tous les 3 ans au moment du renouvellement.
Mais à terme, vous leur demanderez de payer ?
On verra, mais je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Mais faire rémunérer le replay par les distributeurs, SFR l'a accepté puisqu'on a signé un contrat avec TF1, et c'est pas totalement anormal par rapport au poids que représente aujourd'hui le replay dans la consommation de la télévision.
D'un mot, quelle vision le chef d'entreprise que vous êtes avait sur la grande réforme annoncée de l'audiovisuel public, sur le rapprochement entre France Télévisions et Radio France, le méga patron qui doit chapeauter cette entité, vous trouvez que ça va dans le bon sens ?
Écoutez, avoir un service public fort en tant que citoyen, moi ça me paraît tout à fait normal. Un besoin de réorganisation, oui. Et comme je le dis au pouvoir public quand ils nous interrogent, je leur dis le modèle, et je le dis ici en toute franchise, c'est Radio France, plus que France Télévisions. Parce que ici, vous avez des audiences qui sont hautes. La différence qualitative, personne ne la conteste. La spécificité des services publics de la radio, personne ne la conteste. La télévision publique, c'est beaucoup de publicité, des programmes qui ressemblent aux chaînes privées.
Donc le modèle. Pas tous. Vous avez aussi des offres. Je vais être obligée. Bon, allez.
Je vais arrêter.
Emmanuel Macron voudrait augmenter le salaire du futur super PDG pour attirer les dirigeants du privé. Vous seriez candidat ?
Non, pas du tout. Je suis pas sûr que je serais compétent non plus. Je suis très bien où je suis et à chacun son métier. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de candidats qui feront très bien le job. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un président expérimenté, compétent et d'un très haut niveau. Oui.
Alain Veil était notre invité. Belle journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci Léa. À tout à l'heure.